RCF.
10h, 11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
Prenez-en de la graine, c'est votre émission du vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes et tout en prenant soin de la planète. Alors si vous ne connaissez pas cette émission, je vous donne le mode d'emploi, c'est extrêmement simple. Vous avez une question de jardinage ou besoin d'un conseil, vous appelez directement le 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23 ou alors vous posez votre question par mail à l'adresse directe. @rcf.fr. Et notre jardinière du jour, c'est vous, Anne-Marie Nagelessen. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Melchior et tous les auditeurs par cette belle journée de printemps.
Ça y est, c'est le printemps officiellement ?
Ah ben oui.
C'est aujourd'hui. Oui.
C'était hier.
C'était même mercredi. On n'est pas du tout à jour. Ça y est, c'est le printemps et on est très heureux de vous entendre, Anne-Marie Nagelessen. Vous êtes jardinière et créatrice de ce qu'on appelle le potager en carré à la française. Alors, je vous pose toujours cette même question, mais rappelez-nous ce que c'est ce potager en carré à la française.
Oui, donc c'est ma spécialité, moi, ce sont les légumes. Le potager en carré à la française, c'est une méthode de culture qui consiste à organiser les légumes ou les herbes aromatiques dans des petits carrés qui font 40 cm de côté.
Oui.
Et donc, c'est une manière, en fait, d'optimiser l'espace et on peut vivre en autonomie légumière à deux avec 12 mètres carrés de surface cultivée. Voilà, donc je présente tout cela au sein d'une association à Chinon, où le jardin est ouvert à la visite, justement demain et après-demain.
Ah, ben voilà. C'est très bien. Donc, vous attendez à voir du monde. Et j'espère beaucoup de nos auditrices et auditeurs qui vous attendent chaque mois avec impatience. Anne-Marie, comment va votre jardin ?
Oui, j'adore quand vous me posez cette question. Alors, le jardin va bien et beaucoup mieux parce que on a enfin des journées ensoleillées. Alors que là, quand même, on a été bien saucés et on a eu beaucoup, beaucoup de pluie. Hein. Tous ces derniers temps, le sol était imbibé d'eau et c'était très difficile de jardiner d'ailleurs. Hein. Quand c'est ça, il faut mieux s'abstenir de semer ou de planter parce que vraiment les graines peuvent moisir et les racines des plantes peuvent aussi manquer d'oxygène. Hein. Donc là, je suis très contente parce que ça y est, on peut enfin mettre les mains dans la terre. Certes, on dérange beaucoup les vers de terre parce que là, mais c'est vraiment, l'activité, elle est intense,
ah oui.
Comme le sol est très humide. Je suis quand même contente parce que j'avais réussi à faire des semis au début du mois qui sont en train de pointer le bout de leur nez. Les petits pois, les fèves, les navets qui sortent de terre aussi. Et donc, j'ai commencé avec les belles journées de soleil à planter les premières salades.
Ah oui,
mais il
déjà.
Faut rester, déjà. Parce que quand même là, c'est moi qui trépigne et il faut quand même rester très patient parce que c'est quand même le mois prochain où la première grande vague de plantation va pouvoir démarrer.
Alors, ma chère Anne-Marie, justement, c'est le printemps depuis mercredi. Ça dépend des régions, mais j'imagine que ça y est, là, on peut vraiment s'y mettre, on peut continuer les travaux dans son jardin, dans son potager.
Oui, complètement. Alors, évidemment, des régions qui sont un peu plus froides, il faut rester encore patient ou tenter le coup, mais en protégeant vraiment les cultures avec des serres, des constructions qu'on peut faire avec des arceaux en plastique et recouvrir d'une bâche, voire même de papier bulle. C'est un très bon isolant que moi j'utilisais beaucoup quand j'étais en climat de montagne. Et voilà, donc restez quand même prudent. Le sol est encore froid.
Oui.
Donc, il y a pas mal de semis qui vont, les graines vont attendre parce qu'elles ressentent très bien les températures, les durées aussi du jour et de la nuit. Donc, c'est pas la peine de se précipiter. Et si le sol est encore trop détrempé, de la même manière, on attend, on patiente. Et si on a mis des couvertures de sol, ce que l'on appelle les mulches,
oui, les mulches
en agroécologie, voilà, éventuellement, on les retire quand il y a des belles journées de soleil, de façon à ce que l'humidité s'évapore et qu'on puisse commencer à jardiner de manière plus sereine.
On salue tous les auditeurs de Paris et d'Île-de-France grâce à Radio Notre-Dame qui diffuse l'émission Prenez-en de la graine, et puis également les auditeurs de Nantes grâce à Radio Fidélité. On va justement accueillir Nicole qui habite à Paris, si je me trompe pas. Bonjour Nicole.
Bonjour, oui, c'est ma fille qui habite à Paris.
Ah.
Alors, elle a un olivier en pot, un bac assez grand, et il prospère, mais seulement en hauteur. Donc, je pense qu'il faudrait le tailler, et il arrive à faire à peu près 2 mètres de haut, mais c'est une toute petite branche, donc ils ont même mis un fil pour le soutenir en l'attachant en haut du balcon. Et voilà, je sais pas, il faudrait sûrement le tailler.
Eh ben, c'est une bonne question. Merci beaucoup, Nicole, de l'avoir posée. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Marie, pour cette affaire d'olivier ?
Oui, bonjour, Nicole. En fait, ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'il pousse ainsi vraiment en hauteur uniquement. C'est une question et je me demande si il a assez de lumière finalement. Donc, il faudrait voir comment ce balcon est orienté. Bon, voilà, c'est juste une remarque. Et ensuite, eh bien, en effet, si on a envie qu'il fasse plus de ramifications et qu'il s'étoffe, comme vous l'avez dit, Nicole, eh bien, il faut le tailler, hein, comme on le fait avec tous les arbustes, dès lors qu'on souhaite qu'il prenne un peu d'envergure et de ramifications.
Comment il est exposé, Nicole, cet olivier ?
Il est sur une terrasse en plein sud.
Plein sud, oui.
Bon, donc c'est pas la lumière qui lui manque alors.
Non, pas vraiment.
C'était pas la bonne piste.
Il faudrait couper la tige principale, parce qu'en fait, il a une tige principale avec quelques rameaux dessus, et c'est tout en hauteur. Il n'a pas ramifié du tout.
Voilà, c'est ça, Nicole. Il faut l'étêter, couper cette branche. Le nom m'échappe. Enfin,
la branche d'olivier. Oui, le tronc. Non,
c'est pas importe. et puis voilà, vous l'étêtez et du coup, il va faire des ramifications plus importantes pour s'étoffer.
D'accord. Ben je
voilà,
me
Nicole.
Doutais qu'il fallait faire ça, mais ça semble un gros sacrifice de lui couper la tête. Donc, on n'osait pas. Je vous remercie beaucoup.
Oui, alors Nicole, je réponds à votre question et à votre souhait qu'il s'étoffe. Moi, personnellement, je le laisserai comme il est. Il a fait ce choix-là, il est bien exposé, il est plein soleil. Il doit être quand même très beau. Et voilà, moi, personnellement, je n'y toucherai pas. Et puis, je veux juste rajouter, si vous faites le choix de l'étêter, pensez aussi à lui apporter quand même un engrais puisqu'il est en pot, parce qu'évidemment, il va subir un choc et qu'au moins, il ait toutes les ressources pour se remettre de ce choc en puisant des éléments fertilisants dans le sol.
Eh ben Nicole, bon courage avec cette affaire d'Olivier et merci beaucoup pour cette question au 04 72 38 20 23. C'est un arbre, Anne-Marie, qui a besoin d'énormément de soleil, hein. Je crois, Anne-Marie, qu'on va retrouver dans un instant, qui ne nous entend plus. Si vous êtes là, Anne-Marie.
Je vous entends plus.
Ah, moi je vous entends. Zut. Anne-Marie qui est chez elle, pas très loin de Chinon, promis qu'on va retrouver dans un instant. Ça me permet de vous rappeler que vous avez la parole en temps réel pour participer, venir poser toutes vos questions au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou alors si vous préférez directement sur WhatsApp, vous envoyez un message au 04 72 38 20 23. Anne-Marie, on vous a retrouvé. L'olivier, c'est un arbre qui a besoin d'énormément de soleil.
Oui, bien sûr, hein, c'est un arbre du sud, donc il va pas du tout se plaire à l'ombre, hein, c'est certain. C'est certain. Bah, c'est un méditerranéen, donc...
Ouais. J'aimerais qu'on accueille Huguette au 04 72 38 20 23. Bonjour Huguette.
Bonjour à tout le monde. Voilà, j'ai entendu il y a 15 jours, je crois, le jardinier qui disait qu'on pouvait mettre les pots d'agrumes à tremper avant de les mettre dans le conteneur à déchets. Alors, je voulais savoir combien de temps faut les laisser tremper. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait de l'eau ensuite ? De l'eau de macération, on va dire. Mmh. Et oui. Parce que, bon, est-ce qu'on la met dans, aussi dans le conteneur ou pas ?
Oui. Eh bien, c'est une bonne question. Anne-Marie ?
Oui, c'est Huguette. Hein.
Oui.
Oui.
Bonjour Huguette. Ouais. Donc, alors en fait, le fait de faire tremper les pots d'agrumes en soi, c'est pas une nécessité absolue. On peut les mettre sans les avoir fait tremper. Disons que le trempage va permettre de les ramollir et de faire que le processus de décomposition dans le composteur va être plus rapide. Donc, une fois que vous les avez fait tremper, vous les mettez dans votre composteur et l'eau, sans problème, vous pouvez la mettre aussi dans le composteur, à condition que votre compost ne soit pas déjà trop humide. Voilà, parce que là, on risque en effet d'asphyxier le compost. Mais bon, c'est pas, je pense, voilà, c'est, vous n'avez pas des tonnes de pots d'agrumes et des litres d'eau à verser dans le compost. Et si votre compost, vous jugez qu'il est déjà trop humide et qu'il ne faut pas rajouter d'eau, bah, à ce moment-là, vous utilisez l'eau des agrumes dans le jardin, quoi. Le problème, en fait, des agrumes dans un composteur, essentiellement, c'est que ce sont des fruits qui souvent sont traités. Donc, on a des insecticides qui sont encore présents sur la peau et qui, du coup, peuvent être mauvais pour les décomposeurs, toute la faune du composteur. Mais à partir du moment où on a des agrumes qui sont bio, alors déjà, c'est meilleur pour nous-mêmes. Et ensuite, c'est meilleur pour la nature. Et là, on ne se pose pas de questions et on peut complètement les mettre au composteur en les faisant tremper ou pas.
Ben voilà, Huguette. Est-ce que ça vous convient comme réponse pour vos agrumes ?
Oui, c'est très bien. Ouais, oui, je suis au clair maintenant.
Eh ben, c'est super. Écoutez.
Oui, je vous dis bonne journée. Merci encore à RCF parce que j'écoute RCF depuis tellement longtemps. Voilà.
Eh ben, c'est gentil. Merci beaucoup, Huguette, pour votre fidélité et de nous avoir appelé ce matin dans l'émission Prenez-en de la graine. Je précise qu'il y a un petit décalage quand on pose une question à Anne-Marie Nagelessen. Donc, c'est pour ça qu'il y a parfois, il y a un petit blanc. On va essayer de résoudre le problème, mais c'est sans importance. Les agrumes, même question à Anne-Marie. Ça pousse bien dans toutes les régions en France ou alors là aussi, il y a besoin de beaucoup de soleil?
Oui, là, ça pousse pas aussi bien dans toutes les régions en France, bien évidemment dans le sud, le bassin méditerranéen, c'est évident. Ensuite, plus on monte vers le nord, plus en effet on va les cultiver en pot, enfin en grand container, et on les rentre l'hiver à l'abri. Donc, soit dans la maison, l'idéal c'est quand on a une véranda... comme ça, il continue quand même à bien voir la lumière. Et le summum, c'est d'avoir une jolie serre chauffée, qui est quand même plus pratique. Mais il faut les rentrer l'hiver, bien évidemment.
Allez, bonjour Christine.
Oui, bonjour. Je coupe ma radio.
Allez,
parfait. Je suis de l'autre côté, voilà. Voilà, c'est parce que j'ai un terrain de 1000 mètres carrés là dans le Pas-de-Calais avec des arbres fruitiers que j'ai plantés il y a 2-3 ans et il reste une partie herbeuse qui est assez cabossée, c'était une ancienne pâture, donc les herbes sauvages poussent pas mal au printemps, donc chardon, tout ça. Donc on avait déjà fait 2 fauchages l'année dernière. Est-ce qu'on refait ça ou alors on avait envie de faire le rotavator pour égaliser le terrain avant que les arbres soient trop grands, si on trouve aussi quelqu'un pour le faire, quoi. Donc je voulais savoir si c'était bien de faire le rotavator ou c'était mieux de faire le fauchage, mais le terrain va toujours être cabossé, quoi. Il y a des creux, enfin quand on est dessus. Hein.
Anne-Marie, Okay. Oui, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, donc ce que j'entends, c'est que votre souhait premier, c'est de remettre ce terrain de niveau. C'est vraiment, ça vous ennuierait dans ce que j'entends si vous fauchiez à nouveau sans égaliser ce terrain. Donc là, c'est la bonne période, passer le rotavator. En fait, il va permettre, comme on dit, de déchaumer cette prairie. L'avantage de cet outil agricole, c'est que, en fait, c'est pas du tout un labour. Donc, il va seulement gratter la surface du sol. Souvent, ça descend pas plus profond qu'une main. Et en fait, il va arracher ces herbes. Et ensuite, vous allez laisser cela composter. Donc, enfin, moi personnellement, quand ça m'est arrivé, c'est ce que j'ai fait. Je laisse la prairie mourir. En fait, elle a été arrachée, et je refais un deuxième passage de rotavator trois semaines après. Et à ce moment-là, en effet, le terrain est égalisé. Et là, à votre choix, soit vous laissez l'herbe spontanée s'installer, soit vous refaites un semis de raigras, par exemple.
Soit herbe spontanée. Moi, j'aime autant parce que, comme je ne suis pas sur place, c'est plus sain, mais ça ira. Ça ne va pas être trop sauvage.
Et oui, 1000 mètres carrés. Ah oui. Oui, et 1000 mètres carrés à ensemencer. Bon, ça se fait, hein, je l'ai fait, mais c'est vrai que c'est quand même du boulot, et il faut quand même des quantités de semences assez importantes. Quoi.
C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie qui est les arbres fruitiers. Il y a au moins une dizaine d'arbres fruitiers. Donc là, on ne peut pas ensemencer, ça va pousser entre deux. Ça va...
Oh ben, même...
Oui, Anne-Marie ?
Oui, le rotavator, je ne sais pas s'il va pouvoir passer entre eux. C'est pour ça qu'il faut le faire avant qu'il soit trop grand.
Oui, voilà, c'est ça. Bah là, c'est l'agriculteur qui va vous dire s'il peut passer entre les arbres avec son engin. Mais voilà, s'il y arrive, vous pouvez complètement réensemencer, si c'est votre choix, entre les arbres, ou vous laissez la flore locale s'installer, ce qui est mieux, en fait. Parce que du coup, vous allez avoir vraiment une belle biodiversité de plantes, beaucoup plus que si vous reveniez faire un semis de régression ou autre. Donc moi personnellement, je ferais ça, quitte à ce que à quelques endroits vous jetiez quelques graines de prairies fleuries pour qu'il y ait aussi des fleurs et que ça participe aux pollinisateurs, ce qui sera d'ailleurs très bon pour vos arbres fruitiers.
Ah ben voilà, Christine, vous essayez de suivre ces conseils. On vous souhaite un bon courage et merci beaucoup de nous avoir appelés. Dans un instant, on accueillera Yves et Monica Magda. On va écouter de la musique, Anne-Marie. Juste, je vois que vous avez un chien avec vous qui vous accompagne et donc qui écoute aussi l'émission. Comment s'appelle-t-il, si c'est pas indiscret, votre chien?
On en a deux à l'association. Deux. Donc il y a Noé en fait, qui est un petit chien errant qui nous a choisi, voilà. Et on a un deuxième chien, une chienne qui s'appelle Lou.
Voilà, Noé et Lou qu'on salue et qui écoute cette émission Apprenez-en la graine. Allez, je vous propose, vous avez le choix comme d'habitude, Anne-Marie, même si je sais que votre culture en termes de chansons françaises n'est pas incroyable, c'est pas une insulte de dire ça. Pierre Garnier, Clara Luciani ou Benjamin Biolay, qu'avez-vous envie d'entendre?
Amstramgram.
Bon, super.
Le deuxième.
Allez, bah, Clara Luciani, c'est un très très bon choix. Je suis sûr que vous connaissez cette chanson. Vous en profitez pour nous appeler au 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions de jardinage à Anne-Marie qui vous écoute ce matin. Merci pour votre écoute.
Les vrais passants sont des îles faits pour deux. Des châteaux pour lever, toujours lever. Personne ne peut entrer. Une garçonnière privée de chambre d'enfant. Il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps. Personne n'est invité. À la folie, passionnée. Dans un flacon de parfumé, c'est un cadeau piégé.
du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours. Quitter devant dévorer l'autre premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser. Un peu de soi, quelque part. Quitter devant dévorer l'autre premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser. Un peu de soi, quelque part. À la folie. 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 À la folie.
Amour toujours, c'était Clara Luciani pour vous accompagner en ce vendredi matin.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec Anne-Marie Nagelessen, jardinière et créatrice du potager en carré à la française. On aura d'ailleurs un cadeau à vous offrir, j'en dis pas plus, à partir de 10h30. Donc restez bien branchés à votre radio. Anne-Marie, tout va bien ?
Tout va bien. Formidable. J'ai fait un très bon choix musical.
Ah bah
c'était
oui,
super.
Tout à fait. Comme à chaque fois. Allez, on accueille Yves tout de suite. Bonjour Yves.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Ma petite question, c'était que j'ai nettoyé et réinstallé tous mes nichoirs.
Oui.
Et je vois que les oiseaux regardent et tout, mais personne rentre dedans. Je sais pas, ils sont là, ils se mettent à côté. Alors je me posais la question, est-ce trop tôt? Est-ce qu'il y a un autre souci? Je sais pas. Alors je les ai bien orientés sud-sud-est. J'ai bien mis les trous à 34-35 pour que, je pense que c'est ça, le plus standard.
Oui.
Alors voilà, depuis 15 jours, je regarde et je me pose des questions.
Eh ben écoutez, voilà. Merci beaucoup Yves pour cette question. Vous avez frappé à la bonne porte, même toqué, parce que Anne-Marie, je sais que vous aimez beaucoup la biodiversité, vous aimez beaucoup les animaux, les oiseaux. Je suis sûr que vous avez des nichoirs chez vous.
Oui, 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 Yves, merci pour votre question. Ah ouais, et ce matin, j'étais en train de regarder aux jumelles dans le haut d'un bouleau un couple de pies qui est en train de construire son nid avec des brindilles. Enfin voilà, c'est magique, c'est magnifique. Et puis ben Yves, ouais, en effet, les nichoirs, donc déjà c'est, vous avez bien fait de les nettoyer déjà, hein, parce que là c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et c'est plutôt bon signe, hein, si vous avez les oiseaux qui tournent autour. En fait, là, ils sont en train de choisir quels sont les nichoirs qui les intéressent. Et parmi les mésanges, c'est Madame qui va faire son choix et qui va à un moment commencer à faire le nid tranquillement et aussi à le montrer à son compagnon pour lui prouver que elle va bien savoir s'occuper de la nichée. Donc voilà, si vous les voyez tourner autour de vos nids, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'ils les ont repérés et simplement, voilà, comme nous, on choisirait un appartement ou une maison,
oui.
Ils n'ont pas encore fait leur choix d'où est-ce qu'ils vont loger pendant la belle saison. Mais oui, ça me permet aussi de dire justement, hein, si vous avez dans le jardin, alors qu'on commence là le potager, des plantes que vous arrachez qui sont toutes fanées de l'hiver, laissez toutes ces brindilles de part en part dans le jardin, faites des petits tas ou autres, parce que toutes ces brindilles vont servir à des oiseaux pour faire des nids. De la même manière, s'il y a des endroits dans le jardin où vous avez des mousses ou autres, eh bien, laissez-les, parce que ça va être bien utile pour toute cette biodiversité.
Mmh. Ben voilà, Yves, ne perdez pas espoir, les oiseaux ne sont pas encore passés chez le notaire pour acheter leur nichoir. Yves, vous êtes là ?
Oui, oui.
Ah oui.
Vous m'entendez ?
Oui.
Ouais, je dis, maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre le tarif de location pour qu'ils choisissent moins cher.
Voilà, exactement.
C'est ça.
Eh ben, merci beaucoup, Yves, pour votre appel ce matin dans Prenez-en de la graine. On va continuer, on a le temps d'accueillir Monica Magda. Vous avez un très, très beau prénom. Bonjour, Monica Magda.
Oui, bonjour.
Allez-y, vous êtes à l'antenne. Monica, oui. Monica Magda, vous nous entendez ?
Oui, oui.
Vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
Oui. Et voilà. J'habite à Comines, Belgique.
Oui.
C'est dans le nord, ici. Et à Comines, France et Comines, Belgique. Voilà. Je vous appelle parce que j'ai un grand, une grande glycine qui fait bien 3 mètres et a tellement de branches partout et je ne sais pas comment la tailler.
Ben, écoutez, merci beaucoup Monica pour cette question. Monica Magda, pardon. Glycine, voilà, qui est un peu grande, un peu comme l'olivier d'ailleurs qu'on a entendu tout à l'heure.
Oui, alors la glycine, je vais vous répondre, mais sans être précise, parce que pour vous avouer, j'ai oublié. J'avais une glycine à une époque et il y a une façon de tailler la glycine, mais que je n'ai plus là en mémoire. Par contre, oui, en effet, il faut vraiment la tailler parce que c'est une liane. Moi, je l'appelais mon boa constrictor parce que ça s'accroche, ça s'enroule partout. Faut vraiment éviter que ça aille vers des gouttières ou autres parce que ça écrase tout, hein, une fois que c'est enroulé autour. Oui. C'est vraiment un boa constrictor. Donc, j'ai envie de dire, allez-y. Vous allez garder le tronc principal qui vous convient. Et à partir de ce tronc, vous avez en effet plein de tiges qui partent. Et c'est là où j'ai oublié, en fait, pour qu'elles fleurissent correctement, il faut garder, je crois, les tiges au moins de l'année dernière. Les autres, on peut les retirer et il faut tailler à deux yeux. Ah. Mais faites des recherches. Voilà, il y a vraiment une manière de tailler la glycine. Alors, c'est surtout pour s'assurer en fait qu'elle va fleurir. Parce que si on la taille de manière trop abrupte, violente, eh bien, on ne va pas avoir une jolie floraison. Alors que c'est quand même le bonheur de la glycine d'avoir ces fleurs qui dégringolent en grappes. C'est absolument magnifique. Donc, juste voilà, allez faire une petite recherche sur Internet pour avoir les bons conseils sur quelles sont les tiges qu'on peut couper ou pas, celles qui sont anciennes, celles de l'année dernière, etc.
Alors, on a Romane, une auditrice, qui nous dit pour la glycine, il faut garder le gros tronc, garder les vieilles tiges et tailler les deux yeux.
Eh ben, bon, c'est ce que j'ai dit alors.
Oui, bah voilà. Bon.
Voilà, ouais. Mais bon, c'est vraiment de. Je fais mais, ça de mémoire.
Voilà, exactement. Peut-être qu'il faudrait aller vérifier. Je ne doute pas du tout de vos capacités, bien sûr, Anne-Marie. Mais en effet, peut-être que ça mérite une petite mise à jour. Ces techniques, dites donc le jardinage, Anne-Marie.
Ben, en fait, ces techniques, parce que c'est la plante qui est la principale intéressée. Et dès qu'on fait une intervention sur une plante, c'est une violence. Hein. Ouais. Voilà, couper une branche, c'est absolument pas anodin.
Et ça ne s'improvise pas. En tout cas, merci beaucoup Monica Magda pour votre question. On fait une petite pause, Anne-Marie. On se retrouve dans un instant, toujours avec vos questions au 04 72 38 20 23.
10h, 11h, prenez-en de la graine. Avec Melchior Gormand.
Et il est 10h30, toujours prenez-en la graine avec notre invité du jour, Anne-Marie Nageulessen, jardinière et créatrice du potager en carré à la française. Je vous ai un petit peu coupé la parole, je suis confus Anne-Marie, juste avant la pause. Je disais que oui, c'était extrêmement technique le jardinage. Alors autant, vous le dites souvent, il faut se lancer, il faut tester. Par contre, pour tailler les plantes et tout ça, c'est quand même très technique, ça demande de s'y connaître un petit peu d'après vous.
Ben, ça demande vraiment de connaître la plante, comment elle se développe. Avant toute intervention, c'est cette démarche de connaissance, quoi. Après, voilà, on peut évidemment tester des choses, mais avant tout, voilà, se renseigner sur la plante, sur les besoins du sol, etc. Enfin, moi, je dis le jardinage, c'est une démarche d'amour, en fait. C'est-à-dire que on va pas imposer en tant qu'être humain une forme de pensée, de savoir, de domination. C'est avant tout, on apprend à connaître, on aime. Et on va tout faire pour le bien-être de la plante et du sol. Et c'est aussi cela qui fait que, du coup, on est dans une démarche de jardinage paisible, oui. Sereine. parce qu'on sait que chacune de nos interventions va dans le sens du bien-être de la plante.
Alors Anne-Marie, dans un instant, on va entendre Michel et Vincent au 04 72 38 20 23, mais on a un cadeau à vous offrir ce matin, c'est grâce à vous, c'est grâce à un livre que vous avez écrit il y a déjà quelques années et qui rencontre un petit succès, le livre, et vous allez rappeler son intitulé, hein, Le potager à la française. Et ben voilà, j'ai perdu la suite. Ça commence bien.
Oui, donc j'ai écrit 3 livres, hein, sur ma méthode que je travaille depuis 25 ans maintenant. Et le dernier a été publié en 2018. Donc son titre, c'est Le potager en carré à la française, le jardin nourricier tout en biodiversité. Donc c'est vraiment un livre qui présente ma méthode qui est holistique. Le jardin, il est nourricier pour nous-mêmes puisqu'on récolte et qu'on peut vivre en autonomie, mais il est aussi nourricier pour le sol, pour les oiseaux, pour les abeilles, etc., etc.
Voilà, un livre avec toutes les bases pratiques pour installer son potager en carré, donc, et l'entretenir en agroécologie, avec également des outils de planification des cultures. Bref, un livre à mettre en toutes les mains, hein, finalement. Le potager en carré à la française, le jardin nourricier tout en biodiversité. Alors écoutez bien, on a un seul exemplaire ce matin à vous faire gagner. Il y aura un seul gagnant ou gagnante. Et c'est à vous de jouer maintenant en envoyant un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. direct@rcf.fr. Il y aura un tirage au sort. Bonne chance à tous et bonjour Michel.
Oui, bonjour RCF. Oui, j'aurais une petite question. J'ai des plantes d'intérieur, dont la misère, entre autres, qui portent bien son nom. Et je les ai reproduites par bouture il y a quelques années. Puis là, maintenant, les tiges avaient tendance à sécher. J'ai repris des parties vertes que j'ai mis à bouturer dans un flacon avec de l'eau au départ, et je vois toujours pas de petites radicelles apparaître. Je me demande qu'est-ce qui se passe cette année.
Bouture de misère, nous dit Michel. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Marie ?
Oui, oui, ben je vois cette plante. Là, j'en pense que Michel doit quand même avoir la main verte parce qu'il a fait ses boules. Mais oui, il a fait ses boutures et elles ont quand même bien démarré, même si là, ça a un petit peu séché. Donc ça, c'est peut-être voir régénérer le substrat, hein, apporter un petit peu d'engrais. Et puis là, je pense qu'à un moment, de toute façon, ça va bouturer. Tant que ces boutures ne meurent pas, hein, qu'elles restent vertes, c'est qu'elles sont vivantes. Et à un moment, les petites radicelles vont apparaître. Donc, juste patience.
Patience, Michel.
Oui, et par contre, on m'a dit qu'au niveau du substrat, il fallait qu'il soit, que j'avais un substrat sûrement beaucoup trop riche. C'est pour ça qu'au bout d'un an, un an et demi, la plante se dessèche, qu'il fallait ajouter du sable dans le substrat. Donc pour la culture suivante, si elles veulent bien faire des radicelles. Ah.
Alors, je pense que vraiment les radicelles vont arriver, hein, de toute façon. Et puis, faites l'essai. Bon, moi, si la plante a desséché, je doute que ça vienne du fait que le substrat était trop riche.
Oui, le conseil d'un collègue jardinier qui m'a dit ton substrat est trop riche, ajoute 2 poignées de sable dans le prochain substrat.
Oui, il faut qu'il soit mieux dosé, j'ai envie de dire, Anne-Marie.
Alors, c'est peut-être plus drainant, moins peut-être que là, en effet, il s'est un peu asphyxié, il retenait trop l'eau, quoi. Donc, en fait, rajouter du sable, ça va surtout permettre, en effet, que le substrat soit plus poreux et du coup, qu'il y ait moins de risque d'asphyxie des racines. Mais le fait que le substrat soit fertile, enfin, de toute façon, il peut pas l'être exagérément parce que si vous avez utilisé des terreaux, ils sont quand même bien bien dosé au niveau des NPK, hein, donc des engrais. Moi, je pense pas que ça vienne du substrat trop riche, hein, mais peut-être en effet qu'il était, il n'était pas assez drainant et donc essayer en rajoutant du sable en effet.
Merci Michel pour votre appel et bon courage. NPK, je rappelle, Anne-Marie, N azote, P phosphore et K potassium si je me souviens pas. Il y a même le O parfois avec l'oxygène, mais ça c'est plutôt naturel. Mais ça c'est le dosage qui est très important pour les engrais. Enfin le dosage, oui, le mélange, comment on peut dire ça, la formule.
Oui, c'est ça. Alors bon, ça fait partie des trois engrais principaux qu'on va retrouver dans les terreaux ou dans les engrais que l'on achète, y compris dans la corne broyée, le sang desséché ou autre, parce que ben, c'est vraiment les trois principaux pour la croissance des plantes, pour qu'elles fassent des fruits, des fleurs, etc. Maintenant, c'est comment dire, extrêmement limité parce qu'on est quand même sur des cultures hors sol quand on cultive dans des terreaux. Si on est en pleine terre, là, le sol a beaucoup plus d'éléments fertilisants que juste azote, phosphore et potassium. On va retrouver aussi plein d'oligo-éléments, on va retrouver du magnésium, du fer, du calcium. Voilà, il faut mieux jardiner en pleine terre que dans ces substrats recomposés en fait.
On a une question de Céline sur WhatsApp au 04 72 38 20 23 qui nous dit « Que conseillerez-vous comme arbuste, fleur à massif sur une zone très humide pour occuper l'espace ?» Et Céline nous dit « Présence d'une source sur une terre d'origine argileuse. » Alors Anne-Marie, que peut-on conseiller à Céline ce matin ?
Alors, déjà j'irai vers les saules.
Oui.
Qui pousse évidemment très bien dans les zones humides et en plus sur des terres argileuses. Après, je sèche un petit peu en termes d'idées. Moi, j'ai eu ça sur un terrain. J'avais planté aussi, et ça avait très bien marché, ce qui m'avait surpris, mais j'avais mis des genêts dans une haie qui s'était énormément plu dans ce sol argileux. Et puis, autrement, vous pouvez partir sur des arbustes très traditionnels, comme les Eleagnus, qui se plaisent aussi bien dans les terres argileuses et humides. Vous avez, ça fonctionne aussi, les Buddleias. Vous savez, les arbres aux papillons, même si voilà, il ne faut pas en abuser parce que ça peut devenir un peu invasif. Et puis, surtout, le conseil que je donnerais, c'est de rendre ce sol argileux et humide humifère. Donc, venez mulcher, mettez des couvertures de sol au pied de vos haies. S'il y a beaucoup de longueur et que vous avez du mal à avoir la matière dans votre jardin pour venir mulcher, surtout sur une terre argileuse, vous pouvez utiliser du BRF, du bois raméal fragmenté, voire du vieux foin. Vous allez voir un agriculteur, quelqu'un qui a des chevaux, un âne, qui a du vieux foin qui traîne au fond d'une grange, et vous étalez ce BRF ou ce vieux foin au pied de vos haies, et c'est ce que moi j'avais vécu sur ce terrain très humide et très argileux. Oui. En fait, ces couvertures de sol avaient créé un humus qui faisait que l'humidité ne stagnait plus, le sol était vraiment drainant, et du coup, je n'avais plus trop de problèmes de choix en fait de végétaux, puisque je vous dis, même des genêts s'étaient installés tout à fait convenablement.
Bon, voilà quelques bonnes idées quand même pour Céline qui nous a envoyé ce message tout à l'heure. Merci beaucoup Anne-Marie pour tous ces bons conseils. Je rappelle que vous pouvez tenter de remporter un exemplaire du livre « Le potager en carré à la française, le jardin nourricier tout en biodiversité ». C'est le livre d'Anne-Marie Nageulessen. Et pour tenter d'en remporter un exemplaire, vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr, direct@rcf.fr, et il y aura un tirage au sort. Bonne chance à toutes et tous. Et bonjour Vincent.
Oui, bonjour. Ma question, c'est que j'emploie des débris de coquilles d'œufs pour lutter contre les limaces et les escargots et mettre au pied de mes plantes, et en particulier de boutir de figuier. Ma question, c'est, est-ce que je peux en mettre beaucoup? Est-ce qu'il y a un danger à en mettre trop?
Anne-Marie.
Oui, Vincent. Alors, en fait, si vous en mettez de trop, le souci surtout, c'est que les coquilles d'œufs ne se décomposent pas, enfin, ou très, très, très lentement. Donc, vous allez en fait vous retrouver avec plein de coquilles d'œufs dans votre sol. Moi, ce que je vous conseillerais vraiment plutôt, c'est d'aménager partout dans votre jardin des abris pour les prédateurs des limaces,
oui.
De façon à ce que vous ayez vraiment un écosystème qui se régule de lui-même. En particulier, c'est tout simple, mais parmi les abris qui fonctionnent très très bien, ce sont des tas de bois. Justement, on parlait de BRF,
oui,
de bois réaméal fragmenté. Voilà, si vous taillez votre haie, vous mettez tous ces branchages en tas de part et d'autre de votre jardin, et aussi les tas de pierres qui vont vraiment attirer les prédateurs des escargots et des limaces. Et là, on a jardiné, nous, dans l'association, avec ces belles journées de soleil que l'on a eues, et on était tout contents de voir quantité de coquilles d'escargots vides.
Oui.
Donc voilà, ça veut dire qu'il y a des carabes qui, entre autres, qui sont passés par là et qui les ont mangés. Et on a aussi trouvé beaucoup de coquilles cassées. Donc ça, c'est aussi grâce au tas de pierres. On a des oiseaux comme les merles, les grives musiciennes, qui se servent de ces tas de pierres comme d'une enclume pour casser la coquille des escargots et les manger.
Donc pas trop de coquilles. Voilà, c'est vraiment ce que vous
c'est
dites
ça.
Ce matin.
Oui, parce que ça ne se décompose pas. Hein. On le voit très bien quand on met les coquilles d'œufs dans le tas de compost. Alors d'abord, il faut les écraser justement dans la main, parce que sinon on les retrouve quasiment entières à la fin du processus de compostage. Elles ne se sont pas décomposées.
Voilà Vincent.
Merci beaucoup.
Merci à vous pour votre appel et un excellent week-end. Jardinez bien et prenez-en de la graine comme toujours. On a une question d'Eva qui revient sur les oliviers. Alors, je ne sais pas si vous êtes experte en oliviers, mais elle nous dit comment faire des boutures avec un olivier.
Oh ben, comme on fait des boutures avec n'importe quelle plante,
hein, oui.
on va patienter un petit peu, on va plutôt prendre les jeunes tiges de l'année, on attend le mois d'août, on en coupe donc des petits bouts en retirant les feuilles pour n'en laisser que quelques-unes, puisque ces feuilles vont épuiser la plante. Ensuite, on peut se procurer des hormones de bouturage en jardinerie. Donc, on imbibe cette tige de ces hormones de bouturage. Et puis, voilà, on démarre dans des petits pots, tout simplement.
Et ben voilà, question courte, réponse courte et efficace. Je vous remercie beaucoup Anne-Marie. On accueille Michel. Bonjour Michel.
Bonjour à toute l'équipe de RCF et merci pour votre émission. Je voudrais savoir s'il est trop tard pour tailler un tuyaboule de environ 3 mètres de circonférence, parce qu'il risque de s'ouvrir si j'attends le mois de novembre.
Ah oui, un tuyaboule.
Oui, donc là, c'est vraiment encore le moment, je dirais jusqu'à la fin du mois, vous pouvez encore le faire, mais en effet, après, ce sera un peu trop tard.
Voilà. Michel. Eh ben, merci beaucoup. C'était rapide, c'est très efficace, ça me va très bien. Merci beaucoup, Michel, pour votre appel. Dans un instant, Henriette va nous rejoindre. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. Et de tenter de remporter un exemplaire du livre d'Anne-Marie Nagelessen, Le potager en carré à la française, le jardin nourricier tout en biodiversité. Et pour tenter d'en remporter un exemplaire, vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. Bonne chance et voici Benjamin Biolay.
Miss, miss, je t'aime et je crains de t'aimer encore longtemps. Chiche, que tu ne me laisseras pas tomber, qu'on fera du vent. Sur les sentiers de l'apocalypse, qu'on va mourir sans s'oublier, sans s'oublier. t'es dans la peau tout entière. Tu danses le twist jusqu'au fond de ma chair. Je vois l'analyste. Je me rapproche de la terre. Mourir c'est trop triste. C'est oublier tout entière. Je ne peux pas non me passer de toi. Me passer de toi. Me priver de toi, me priver de toi.
Voilà une chanson à écouter en train de jardiner, Anne-Marie.
Ah oui, complètement. Et je me disais, je pourrais la chanter à mon jardin.
Voilà.
Je ne peux pas me passer de toi.
C'est ouais. Joli, hein. Miss Me, c'était Benjamin Biolay en ce vendredi matin.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10 minutes avant la fin de cette émission, toujours avec Anne-Marie Nagelessen, jardinière et créatrice du potager en carré à la française. On accueille Henriette. Bonjour Henriette. Ah, je crois qu'Henriette n'est plus là. On a Agnès qui avait un petit conseil pour les coquilles. Vous savez, c'était la question de... Tout à l'heure, c'était Michel. Attendez, je me perds, je suis confus. Non, c'était Yves. Vincent. Anne-Marie, je suis confus, je suis en vacances ce soir. Alors, il y a un petit coup de fatigue. Agnès nous dit, les coquilles, je les écrase en poudre. Est-ce que c'est une bonne idée, d'après vous, Anne-Marie?
Ah ben oui. Ben, du coup, oui. Bon, c'est un petit travail supplémentaire, mais elle fait les choses très bien, dis donc. Hein.
Oui. Bon, ben voilà, écoutez, c'est bien d'avoir des idées comme ça. Je reviens sur ce qu'il y a à faire au potager en ce début printemps. Est-ce que il est toujours temps de planter, même si c'est maintenant qu'il faut continuer de planter ou c'est trop tard?
Ben là, au niveau du potager, on commence à planter. Ouais. Comme je disais, voilà, là, on a les premières salades. On a des choux aussi hein, que l'on peut mettre en terre, des choux paumés, des choux rouges. Mais c'est quand même à partir du mois prochain où, je vais dire, vraiment la grosse vague va pouvoir démarrer et en particulier beaucoup de semis. Là, c'est encore un peu trop froid.
Ouais.
On peut encore avoir vraiment des petites gelées. Hein. La nuit, il fait encore frais. Donc, il faut encore être patient. Et puis, bon, il faut quand même le dire, le sol, là, en ce moment, est très détrempé.
Quoi, ouais.
Très détrempé. Donc, souhaitons que les petites journées de soleil, là, continuent. Et ça va nous mener tranquillement à la fin du mois de mars pour commencer à attaquer au mois d'avril. Bon, sachant que le gros, vraiment, ça va être le mois de mai, après les Saintes Glaces.
Mmh.
hein, où il y a toujours des petits risques de gelée. Donc aussi hein, dire en ce moment ce qu'on commence à planter et à semer, et le mois prochain, il ne faut pas oublier de garder des emplacements pour tous les légumes qu'on va mettre à partir de la mi-mai, les tomates, les aubergines, les courgettes, les poivrons, etc. Il faut bien penser à garder leur place, parce que moi je me suis fait avoir une année et j'étais avec mes plants de tomates en disant « Ah, suite ah, !» Où est-ce que je les mets ?
Bon, bah voilà, n'attendons pas trop. Henriette est de retour. Bonjour Henriette.
Bonjour monsieur et bonjour à votre... invité,
Anne-Marie.
Jardinier, super jardinier et à tout le monde. Alors oui, je vous appelle. Moi, je n'ai pas de jardin, mais j'écoute d'ailleurs, étant à Paris. Mais j'écoute votre émission parce que ça me fait rêver et ça me fait apprendre beaucoup de choses. Alors merci. Alors je vous appelle parce que c'est pour moi la saison du buis. J'aurai quelques branches en allant à l'église prochainement, mais je m'inquiétais parce que pour les buis, car j'avais entendu sur une autre radio, c'est pas bien, j'écoute des fois d'autres radios, qu'il y avait un parasite sur le buis.
La pyrale.
Je voulais savoir ce qu'il en est, est-ce qu'il se porte bien et s'il faut les soigner, comment on fait?
Eh ben, écoutez, merci Henriette. Je pense que ce parasite évoqué par Henriette, c'est la pyrale du buis, Anne-Marie.
Ouais, je pense aussi que c'est la pyrale du buis. En fait, pour moi, ça revient toujours à ça. J'ai conseillé dernièrement à un ami qui avait des problèmes justement avec ses buis, je lui ai dit, mais moi, je pense vraiment qu'il faut que tu prennes soin du sol. C'était des buis qui étaient vraiment plantés depuis très longtemps, sans qu'il n'y ait jamais rien eu de fait au niveau du sol, qui s'était complètement épuisé. Et je raconte la petite histoire. Il se trouve que cet ami a des chevaux et il avait un tas de compost, de fumier de cheval énorme dont il ne se servait pas. Et je lui ai dit, mais voilà, tu as une manne là vraiment. Il faut régénérer l'humus du sol. Donc il a ramené du compost au pied de vous voyez, comme un jardin à la française, quoi. C'était vraiment plein de buis très anciens qui dessinaient des motifs géométriques. C'était très beau. Et donc, il a ramené du compost au pied de ses buis. Il a aussi mis des mulches, donc des couvertures de sol. Bon, là, il se trouve qu'on était à l'automne, donc il a pu utiliser les feuilles mortes des arbres. Mais il n'arrête pas de me remercier, quoi. Ses buis ont été sauvés, mais c'est une seconde jeunesse extraordinaire. Donc voilà, comme pour toutes les plantes, on prend vraiment soin du sol. Et ensuite, quand la pyrale est en place, ben là, c'est vraiment pas simple. Je crois qu'il y a un produit autorisé en jardinage biologique qui s'appelle le bacille thuringis, le BT, on l'appelle, qui peut être pulvérisé, mais souvent c'est compliqué de faire partir la pyrale. Donc voilà, c'est toujours cette même logique, quoi. Les plantes, elles ont les racines dans le sol, elles peuvent plus bouger une fois qu'elles sont là. Si ce sol s'appauvrit, elles se fragilisent. Donc, on va vraiment prendre soin de ce sol.
Ben voilà. Merci en tout cas, Henriette, pour votre appel au 04 72 38 20 23. Je reviens juste sur vos chiens, Noé et Lou, qui, j'imagine, qui parcourent aussi le carré en potager à la française. Potager en carré à la française, pardon, j'ai inversé. Est-ce qu'ils ils ont le droit d'y accéder, Anne-Marie?
Alors, ben oui, ils ont droit d'y accéder, évidemment. Mais le plus amusant ici, c'est que, en fait, c'est eux principalement qui mangent les légumes.
Oh non, c'est pas vrai.
Si. Donc, les gens, ils rigolent quand ils viennent en stage parce qu'ils font ça vraiment devant notre nez. Donc, ils vont arracher les carottes, ils vont arracher même les radis noirs, ils adorent ça.
Ah, c'est bon.
Les radis tout court. Les betteraves, ils adorent les betteraves. Et les tomates. Et les tomates mûres, là. L'année dernière, j'ai pas goûté aux premières tomates de la saison. Bon, après, il y en avait beaucoup, puis elles avaient monté sur le pied, donc ils n'avaient plus accès. Mais toutes les premières tomates mûres, c'était pour les chiens. Ouais, ils sont trop mignons.
Je pensais pas que les chiens aimaient les légumes à ce point.
Eh ben, moi non plus.
Bah, Noé, ils sont en pleine forme, alors.
C'est ça.
Mais vous, enfin, ça vous dérange pas, vous? C'est comme ça, ça fait partie de la vie de la nature, ou alors quand même vous aimeriez parfois leur dire arrêtez un petit peu les loulous.
Non, moi, ça ne me dérange pas du tout. La chienne, ce n'est pas un problème. Elle va faire ses besoins dans les allées du jardin. Mmh. On a Noé, il faut être clair, quoi, c'est le problème avec les chiens. Noé, c'est sûr que de temps en temps, il va lever la patte sur une plante, mais ce ne sont pas les seuls animaux, de toute façon, à traverser le jardin. Hein. Ici, on a des renards qui traînent. Oui. Donc, je fais juste très attention quand je prépare les légumes. Je les fais bien tremper dans de l'eau vinaigrée, je les nettoie bien. Et moi, je pense en plus que la présence de Lou et Noé, de même que ma présence, rend les végétaux heureux, en fait.
Ah oui.
Parce que, et là, justement, on était en train d'échanger avec des personnes qui sont venues en stage, une petite vidéo où on s'est aperçu que les plantes étaient sensibles au chant des oiseaux. Et que le chant des oiseaux était même une sorte d'engrais sonore. Les plantes poussent bien mieux dans un environnement qui est riche, ouais, d'oiseaux, comparé à des champs en culture intensive. Voilà, donc on est dans cette sensibilité des plantes à leur environnement. Et quand cet environnement est joyeux, et plein d'amour, et ben je pense que les plantes le ressentent.
C'est toujours un plaisir de vous entendre, Anne-Marie Nagelessen. On pourrait faire ça pendant des heures. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle votre site potagerencarré.info. On mettra le lien sur notre site rcf.fr. Je m'étouffe. Et vous pouvez tenter de remporter un exemplaire du livre d'Anne-Marie, Le potager en carré à la française, Le jardin nourricier, tout en biodiversité, en envoyant un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. Merci Anne-Marie, à très vite. Merci à Antoine, merci à Or et à Maglone à la réalisation. Je suis en vacances ce soir, donc je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve le mardi 2 avril. Sachez que ce lundi et mardi, Je pense donc J'agis sera présenté par Pauline de Torsiac et Anne Kerléo. Allez, à très vite. Bye bye.